Ludovic Morlot, vous êtes français, vous êtes passé par la London Royal Academy of London de musique, mais pourquoi ?
Parce que j'avais envie de trouver ma voie en tant que jeune artiste et je pensais que le mieux pour moi c'était d'explorer plein d'influences différentes. Donc je voulais quitter la route un petit peu habituelle de mes collègues à l'époque et je voulais partir à l'étranger, je voulais apprendre l'anglais, je voulais apprendre un peu comment on faisait de la musique ailleurs. Et puis ça m'a permis de faire plein de rencontres que j'aurais pas fait si j'étais resté en France, j'imagine. J'ai toujours été assez curieux par rapport au voyage aussi. Et grâce à ça, j'ai pu aller aux États-Unis rapidement dans ma vie, faire plein de rencontres, ce qui m'a vraiment permis d'être où je suis aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est-à-dire d'avoir pu rencontrer des mentors comme Seiji Ozawa, James Levine, Bernard Haitink, qui m'ont finalement aidé à créer et à trouver ma propre identité en tant qu'artiste.
Votre formation initiale au départ, qu'est-ce que c'était ? Et c'était un conservatoire de région en France ?
Oui, j'étais violoniste. Donc j'ai étudié depuis l'âge de 6 ans. J'étais violoniste au conservatoire de région à Lyon. Et ensuite, je suis parti étudier au Canada, à Montréal, pour l'équivalent du conservatoire supérieur. Et c'est toujours un professeur qui nous attire. Hein. Alors j'avais rencontré ce violoniste formidable, Vladimir Lanzmann, qui était un élève de Yankelevich, qui enseignait à l'Université de Montréal. Et j'ai tenté l'aventure. J'avais 19 ans et j'ai décidé de partir avec quelques francs à l'époque ou quelques dollars en poche et vraiment d'aller vivre une aventure excitante et palpitante et je regrette rien parce que c'est le chemin qui m'a ensuite ramené à Londres et qui m'a permis de rencontrer Sir Colin Davis à Londres et de par ce biais rentrer en contact avec l'orchestre de Boston et Seiji Ozawa et Bernard Haitink et toutes ces rencontres formidables.
Et la direction d'orchestre, elle est venue comment ?
Elle est venue comme un peu une extension de la musique de chambre pour moi. J'aimais beaucoup en tant que violoniste jouer dans l'orchestre, mais aussi j'étais très actif au niveau de la musique de chambre. Je crois que ma passion pour la direction, elle est venue de la curiosité d'ouvrir des partitions d'orchestre et d'en étudier. J'adore l'architecture aussi, donc j'avais envie d'étudier et trouver de pouvoir répondre à toutes ces questions que je me posais par rapport à ci et ça, par rapport à mon rôle, par exemple, en tant que second violon dans un orchestre, etc. Et c'est cette curiosité du répertoire qui m'a permis d'ouvrir des partitions d'orchestre. Et puis, un jour, l'occasion s'est présentée dans une université d'été à la Piermonte School, en fait, l'école Piermonteux aux États-Unis, où le professeur qui était Charles Brooke à l'époque m'a encouragé à essayer de diriger. Et puis, bon, voilà, après, ça m'a plus quitté.
Et alors, vous dites deuxième violon, mais où ?
Non, c'était pas de façon professionnelle, dans les orchestres d'université, etc. Et j'ai même pas eu le temps vraiment de démarrer une carrière professionnelle en tant que violoniste, parce que la direction a pris le dessus très rapidement.
Et vous êtes attaché à un répertoire ?
Je pense à ces 50 ans de musique entre 1870 et 1930. Ce passage finalement au modernisme, dans l'écriture, où l'écriture orchestral allait avec tout ce qui se passait dans les expositions universelles où on avait cette espèce de goût pour l'exotique, pour l'inconnu et pour ces couleurs un petit peu nouvelles. Et en fait, c'est ça qui m'a attiré dans le répertoire. Donc Stravinsky, Prokofiev, Debussy, Ravel, c'est tout un peu cette musique qui m'a rendu curieux dans l'étude de la musique d'orchestre.
C'est aussi la révolution dans les cuivres et dans les bois.
Oui, complètement. Et aussi le passage d'un orchestre de taille classique à quelque chose de différent, l'inclusion des instruments à percussion à part entière, comme un instrument qui peut pas juste supporter une harmonie, mais créer une couleur et créer un support au vocabulaire et au langage musical.
Et vous n'étiez pas attaché à une école, une nation particulière ?
Je pense que j'ai toujours développé une passion pour la musique slave, d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré, j'imagine. Toute la musique qui était basée sur le rythme, et sur un matériau populaire. Je pense par exemple à la musique tchèque ou la musique russe qui emprunte beaucoup à la musique populaire et qui les cite, qui les inclut dans son tissu musical. Ces deux combinaisons avec le rythme qui m'ont toujours attiré beaucoup. Donc du coup la musique française aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait une part dans la musique française de folklore et de rythme qui est peut-être pas aussi évident que chez Stravinsky, mais qui est très présent.
Et vous avez travaillé sur des traités d'orchestration ?
Oui, bah j'ai lu Rimsky, j'ai lu Berlioz. J'étais amoureux de la musique de Berlioz très très jeune. Mes parents habitaient tout près de la maison, village natal, la Côte-Saint-André de Berlioz. Donc en fait, comme gamin, j'ai passé beaucoup de temps à lire les mémoires de Berlioz sur mon vélo, à parcourir un peu les paysages et les lieux où Berlioz a écrit ses mémoires. Donc c'est un compositeur qui m'intéressait beaucoup de par son originalité aussi au niveau de l'orchestration.
Vous êtes dans une famille de musiciens ?
Pas du tout. Mes grands-pères étaient musiciens amateurs. Mais vraiment amateur. J'avais un grand-père qui chantait dans une chorale, la Scola Cantorum à Lyon, et l'autre grand-père avait appris le violon et la clarinette pendant la guerre. Donc non, mes parents ne sont pas musiciens, mais quelque part c'était bien pour moi, parce que j'ai voulu leur prouver que c'était quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire sérieusement. Et sans leur support, j'ai dû me battre encore plus pour accomplir les études à accomplir.
Alors la musique est venue comment ?
Par mes grands-pères. J'ai eu la chance de vivre avec un de mes grands-pères à un très jeune âge. Et il m'a beaucoup emmené aux concerts. Il était très curieux. C'était mon grand-père qui chantait et qui était amoureux de l'opéra. Donc il m'a emmené à l'opéra. Et c'est comme ça que la passion s'est développée. Mes parents ont insisté pour qu'on apprenne un instrument à un jeune âge, parce que je pense que ça leur avait manqué dans leur éducation. Donc j'ai eu cette chance aussi qu'il m'ait exposé à l'étude du violon assez jeune.
Et alors, à un moment donné, vous vous trouvez devant un orchestre. Et alors, quand vous avez passé des prix, quelle était l'œuvre qui vous a marqué et qui a été pour vous importante ?
En direction ?
En direction, bien sûr.
Une des œuvres clés, ça a été l'après-midi d'un faune de Debussy, le Sacre, bien sûr. C'est des œuvres que j'ai dirigées assez jeune. Pour moi, la première chose que j'ai dirigée, je me rappelle, c'était les Hungarian Sketches de Bartok, cette petite pièce pour orchestre en 5 mouvements, c'est des miniatures pour, je sais même pas comment on traduit ça, des esquisses hongroises. Immédiatement après ça, j'ai dirigé les 2 derniers mouvements de la 5e de Beethoven, je me rappelle, et Un Américain à Paris de Gershwin. C'était mes 3 premières pièces en direction avec un orchestre à la Pierre Monte School. En fait, ça reproduit un petit peu la musique que j'aime et la variété, cette tradition que je trouve toujours fondamentale. Et ce modernisme qu'on construit, parce que c'est quoi le modernisme ? C'est quelque chose qui est original, mais qui est construit sur une tradition très solide. Et j'ai toujours embrassé un petit peu ces deux idées. Et je programme souvent en mettant ces deux esthétiques en confrontation.
Et quelle est la clé d'un bon chef d'orchestre ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui a une certaine sincérité par rapport à la mission qui lui est mise entre ses mains, c'est-à-dire une certaine humilité permanente de l'étude de la partition, mais aussi c'est quelqu'un qui est un générateur, comme un coach d'une équipe sportive. Je compare toujours un peu à ça, parce que c'est quelqu'un qui travaille à créer un environnement dans lequel les musiciens peuvent délivrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est une combinaison de psychologie, d'énergie, de confiance, de sincérité et de travail, bien évidemment. Parce que quand on veut avoir une certaine humilité par rapport à un répertoire, il faut savoir ce qu'on raconte. Donc, beaucoup de travail.
Alors, surtout quand vous choisissez un répertoire de transition entre 1890 et 1940, le rôle de l'interprète dans l'orchestre est important, puisque là, on commence à développer la voix indépendante de l'orchestre. Alors, comment on fait quand on a un rapport entre le collectif et ces voix indépendantes qui apparaissent ?
Je pense qu'on invite les musiciens à cette même approche, c'est-à-dire à une approche d'écoute et de compréhension de la partition. Je pense qu'il faut réaliser très rapidement que les musiciens qu'on a en face de nous sont des musiciens de très haut niveau, avec des compétences formidables, avec un bagage et des connaissances extraordinaires. Il faut les aider finalement à recréer ça dans un élément avec où il y a 6 différents matériaux qui se confrontent sans arrêt. Donc je pense beaucoup dans cette approche de musique de chambre et de confiance, mais aussi d'écoute. C'est-à-dire, on joue pas un accord parfait majeur juste parce que le chef dit la fondamentale doit être plus forte, la quinte doit être un petit peu plus forte, la tierce un peu moins forte, un peu plus haute, un peu plus basse. C'est pas ça, c'est comment engager les musiciens à leur faire embrasser et comprendre le rôle qu'ils jouent au sein de l'orchestre. C'est vraiment les encourager à une qualité d'écoute très affûtée.
Il y a l'intégrale du Tilleux. Vous avez presque fait la première intégrale américaine.
C'est pas une intégrale vraiment, parce que c'est vrai qu'on a laissé des choses en dehors. On n'a pas enregistré le Loup, par exemple, qui est une belle partition de jeunesse, ou les œuvres vocales, qui sont ces dernières œuvres, qui sont magnifiques aussi. Pour moi, c'était quelque chose d'important, parce que je voulais commencer avec l'orchestre à Seattle en arrivant, à travailler sur un répertoire qu'ils n'avaient jamais joué. Ça me donnait une plus grande autorité au niveau artistique, où je pouvais façonner un petit peu la musique un petit peu plus comme moi je l'entendais. J'avais aussi cette chance d'avoir rencontré Henri Dutilleux et d'avoir un rapport avec ce compositeur qui était encore vivant quand on a commencé le travail sur ses œuvres. Donc je pouvais aussi lui poser des questions et avoir ce rapport qu'on aimerait avoir avec tous les compositeurs du monde, hein, c'est-à-dire de pouvoir prendre le téléphone et poser une question sur des détails importants de l'interprétation de la musique. Donc tout ça se mettait en place pour aussi m'aider à encourager l'orchestre à aborder ce répertoire avec cette discipline d'écoute, comme je vous disais. Parce que c'est pas une musique qu'on peut jouer si on la comprend pas, avec non seulement pertinence mais aussi intimement. C'était un travail de longue haleine, mais je voulais que l'orchestre démarre de zéro et que je puisse leur donner cette opportunité avec cette musique de la comprendre pour pouvoir la reproduire de façon aussi belle.
Comment vous leur avez expliqué la place de Dieu dans la musique contemporaine française, puisqu'il y a les spectros, il y a les sérielles, il y a toutes les écoles, et en même temps, il a réussi, on peut dire vaille que vaille, par son énergie, à créer une propre démarche personnelle, une propre ligne personnelle.
C'est de façon très simple, c'est-à-dire que pendant qu'on jouait la musique de Dutilleux, j'ai continué à programmer la musique de toutes ces écoles différentes de la musique française. On jouait Tristan Murail et Gérard Griset dans notre série de musique contemporaine. On retournait aux sources avec la musique de Debussy. J'ai fait les grandes fraises chorales de Berlioz. Et en même temps, on avait aussi une activité de création avec d'autres compositeurs importants de cette tradition symphonique française. On a créé la première américaine du concerto de violon de Pascal Dussapin, par exemple. On était acteur et responsable d'une partie de la commande de cette œuvre. Donc on jouait de la musique de Dalbavi. On a joué les notations de Boulez, par exemple. On a fait un concert où j'avais rêvé d'inviter Pierre Boulez à diriger l'orchestre une fois. J'avais programmé pour lui la sixième de Mahler et notation. Et hélas, il n'était pas assez bien pour venir travailler avec l'orchestre. Mais j'ai gardé ce programme. Donc en fait, j'ai confronté la musique de Dutilleux avec toutes les autres musiques françaises. Et c'est peut-être ce qui leur a fait apprécier et comprendre ce vocabulaire plus rapidement.
Donc c'est un orchestre qui a quoi comme tradition ? Une tradition plus germanique ?
Une tradition très germanique, oui. Beaucoup Strauss, Mahler et aussi Shostakovich. Et une tradition de musique américaine. Mais musique américaine, je dirais plus académique, c'est-à-dire le milieu du XXe siècle. Donc on pense à Piston et on pense à Copland beaucoup et Evanescence. On pense à tous ces compositeurs que Gérard Schwartz, mon prédécesseur, avait beaucoup mis en avant. Et en ce qui concerne la musique américaine, j'ai décidé aussi de confronter la musique de Dutilleux et la musique française à la musique américaine plus moderne de Charles Ives et Gershwin, qui pour moi est un vrai moderniste. On a aussi embrassé au niveau discographique un focus et un projet d'enregistrer les œuvres de Ives en même temps, en parallèle avec Dutilleux.
Mais pas Elliot Carter.
Oui, si, Elliot Carter, parce que pour moi c'est la même trajectoire. En fait, je lui avais passé commande d'une œuvre au moment où j'avais été nommé à l'orchestre de Seattle, donc c'était vraiment à toute fin de sa vie. J'avais noué des liens très importants avec Elliot Carter à Boston et à New York, et il m'avait dit qu'il n'aurait pas le temps, et un jour dans la poste est arrivée cette petite pièce Instances pour orchestre de chambre, qui m'avait dédié à l'orchestre de Seattle, donc qu'on a pu enregistrer tout de suite, hélas il n'a pas pu l'entendre, mais qu'il avait écrit à toute fin de sa vie pour notre orchestre. Donc oui, Elliot Carter, mais aussi maintenant Sébastien Currier, par exemple, qui est un compositeur extraordinaire à qui j'ai passé commande récemment d'une pièce Divisions que je vais interpréter à Amsterdam cette semaine avec l'orchestre de la radio, Sébastien Currier et d'autres. Et puis d'autres aventures, on s'est lancé dans des festivals de musique américaine sur 2 semaines où on explore plein de voix différentes. J'ai fait par exemple 4 concerts au mois de juin dernier où on a exploré 4 volets différents, le modernisme, le populisme, le minimalisme et la musique d'Hollywood, qui sont 4 fenêtres très très différentes d'aspects de la musique américaine, mais qui nous ont permis de commencer à goûter à ce qu'on pourrait éventuellement vouloir explorer avec plus de profondeur.
Et alors dans un orchestre américain, quelle est la qualité principale que l'on ressent ?
Je pense que chaque orchestre américain a des qualités différentes. Pour parler de Seattle, je pense que c'est la versatilité de l'orchestre. Le fait que cet orchestre joue la musique symphonique, la musique d'opéra, parce que c'est l'orchestre de l'opéra de Seattle aussi, mais aussi peut jouer la musique de Boulez un jour, la musique de Marvin Hamlisch et Duke Ellington le lendemain et retourner à Mahler le jour d'après. Donc cette espèce de palette et aussi cette volonté d'embrasser toutes ces différentes musiques un jour après l'autre, c'est quelque chose d'assez unique, je dirais, pour l'orchestre de Seattle.
Vous avez une salle d'orchestre. Quelle est sa qualité ? Il y a combien de personnes dans cette salle ?
Donc c'est une très belle salle qui a été construite en 1998. Donc c'est une salle qui a bientôt 20 ans et qui s'appelle Benaroya Hall, qui est sponsorisée qui a été construite grâce à la famille Benaroya, qui est une famille clé à Seattle. C'est 2500 places. Et c'est une très très belle salle, effectivement, une des plus belles salles acoustiquement aux États-Unis. qui a été construite sur le modèle de Avery Fisher Hall à New York, par le même acousticien, en fait, Cyril Harris, mais avec un peu de chance beaucoup plus tard. Donc je pense que Cyril Harris, qui vient de nous quitter il y a 2 ans maintenant, a appris un peu les leçons d'avoir, j'imagine, un petit peu raté des choses à Avery Fisher Hall, comme on sait, c'est pas non plus la salle la plus convaincante au niveau acoustique. Et donc a reproduit cette espèce de boîte à chaussures, hein, shoebox, un peu comme le Musikverein, toutes ces salles qu'on aime beaucoup, comme le Symphony Hall à Boston, et qui a créé cette acoustique vraiment très belle. C'est une acoustique qui est très équilibrée et qui nous permet de faire tous nos projets d'enregistrement dans la salle aussi, parce qu'on a le studio dans la salle et l'acoustique est merveilleuse, que la salle soit vide ou pleine.
Et il y a des ensembles de musique contemporaine à Seattle ?
Quelques-uns, mais je dirais que les plus fortes activités de musique contemporaine se font par nos musiciens au sein de l'orchestre. On a des séries de musique contemporaine qui sont mises en place par des petits groupes de musiciens. Donc il y a plus d'ensembles baroques et d'ensembles de musique ancienne à Seattle, à proprement parler, indépendant, je dois dire. Mais au niveau musique contemporaine et création, le Seattle Symphony est l'acteur le plus important.
Et pour un même programme, vous faites combien de concerts ?
Alors ça change entre 2 et 3 fois. Quand je suis arrivé, on répète parfois 4 fois les programmes, ce qui était un petit peu un challenge au niveau du remplissage de salles. Donc on varie entre 2 et 3 fois, mais on fait très peu de concerts uniques. Donc c'est bien de pouvoir envisager ce voyage sur 3 concerts aussi.
Et vous avez des possibilités de faire des tournées internationales ?
Pas pour le moment. On est allé à New York il n'y a pas très longtemps avec Carnegie Hall. On fait une tournée en Californie très bientôt. L'orchestre financièrement est en train de se construire encore et j'espère pouvoir envisager des tournées internationales très bientôt.
Comment se fait le financement de l'orchestre ?
C'est privé, donc c'est du financement privé, de mécènes privés, individuels, un petit peu de subventions et de mécénat d'entreprise, très peu de la part de l'État. Donc c'est vraiment un travail de fou chaque année d'arriver à trouver le budget pour créer nos ambitions et nos rêves artistiques.
Et vous avez une activité vis-à-vis des écoles, des institutions ?
Oui, on a beaucoup de concerts scolaires. On a repris ce programme aussi de Carnegie Hall qui s'appelle Link Up, qui permet à des jeunes étudiants de venir et de participer, qui jouent avec l'orchestre sur des flûtes à bec, etc. Donc c'est tout un programme comme ça qui ensuite aboutit à des concerts en collaboration et en side-by-side, côte à côte. Mais on travaille beaucoup avec les écoles, pas seulement de musique, mais les écoles, et beaucoup de projets de communauté. On joue dans les prisons, par exemple. On a beaucoup de projets où on essaye de partager la musique avec toute la ville, avec toute la communauté, vraiment.
Les places s'étalent de quel prix à quel prix ?
Il y a des places très peu chères. On commence à $15, hein, et puis après, il y a les suites, etc., qui vont dans les $150. C'est à peu près l'éventail de prix. Après, il y a des concerts un peu plus prestigieux, comme le gala d'ouverture, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a aussi des séries qui sont très peu chères. On fait une série, par exemple, le vendredi soir, un concert d'1 heure, pas d'entracte, pour un plus jeune public, et c'est entre $10 et $15. On a une série de musique contemporaine aussi qui est très peu chère. Donc on essaye que ce ne soit pas un obstacle pour les gens pour venir écouter la musique.
Et vous enseignez aussi l'orchestre, j'ai remarqué.
Oui, j'enseigne la direction d'orchestre à l'Université de Washington, à Seattle. En fait, c'est plus pour moi pour créer un pont et un lien entre l'université et l'orchestre symphonique. Donc j'enseigne très peu à l'université, mais j'accueille mes étudiants beaucoup à l'orchestre et on parle du répertoire. J'enseigne pas beaucoup la direction physiquement et techniquement. Je passe beaucoup de temps à lire les partitions avec mes étudiants et à discuter de la musique et parler du métier de chef d'orchestre, parce que finalement on parle très peu de comment on gère le temps, par exemple en répétition, comment on est confronté justement à toutes ces choses par rapport au milieu psychologique et comment on arrive à convaincre un groupe de musiciens d'essayer d'interpréter une phrase musicale de telle façon. Donc un petit peu toutes les choses que j'ai appris sur le tas, j'essaye de leur donner un petit peu cette perspective en amont et essayer de les préparer à tout ça aussi. Fundraising aussi, le mécénat, comment établir un programme sur une saison, sur 5 saisons. Donc toutes ces discussions qui sont aussi importantes que finalement qu'est-ce qu'on fait avec ses mains quand on dirige.
Et alors, quelles sont vos perspectives là dans les années qui viennent ? Refaire de l'opéra ?
Oui, l'opéra, c'est une de mes grandes passions. Donc je fais L'Enfant et les Sortilèges en concert, par exemple, à Seattle cette année. Passer plus de temps en fosse, évidemment, ça serait une aspiration. Et puis, vraiment grandir chaque jour, apprendre quelque chose chaque jour. C'est un peu cliché, mais c'est quand même au bout du compte ce qu'on essaye de reproduire dans notre vie chaque jour. C'est, se lever le matin avec cette ambition d'apprendre quelque chose de nouveau et d'aller un peu plus loin dans notre découverte, dans notre quête à l'étude de cette musique.
Merci Ludovic Morlot.
Un grand plaisir, merci à vous.